Tout ça, ce sera après la revue de presse, la presse du dimanche que vous avez lue, Jean-Philippe Ballaz. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Dans les journaux ce matin, il y a la photo d'un palais.
Qui fut d'abord hôtel particulier, bâti par le comte d'Evreux sur des terres maraîchères au 18e. La demeure parisienne a vu passer la marquise de Pompadour, Napoléon III, vécu soirée de débauche et intrigue singulière. Ce lieu s'appelle bien sûr le palais de l'Élysée. Sa cour d'honneur est à la une de nombre de vos journaux ce matin, forcément ce jour particulier. La Provence, Républicain Lorrain, l'Alsace, Corse Matin, le JDD, un tapis rouge, 60 mètres de long le tapis rouge, en première page de Sud-Ouest qui vous offre un petit tour du domaine. 78 000 mètres carrés et autant de pièces que de jours dans l'année, 365, de la bibliothèque au jardin d'hiver, du salon Murat à celui des ambassadeurs. Le palais, avec ses illustres invités et sa foule d'anonymes. Les anonymes de l'Élysée, titre d'un beau livre dont on vous parle dans le Bien Public et le Midi Libre. La plume d'Emery Doliger, les photos clair-obscur de Sacha Goldberger, portrait de celles et ceux qui font la vie du château. Il y a la cuisinière, l'horlogère, le chef argentier des arts de la table. Il y a aussi Véronique, la standardiste. Véronique et son drôle de boulot. Les gens désespérés qui appellent parce qu'ils n'ont plus assez d'argent pour finir le mois. Il faut les écouter. On sent la simplicité, l'humilité, l'humanité précieuse de ces hommes, de ces femmes. Petite fierté invisible de servir la France. Invisible. Bah tiens, c'est aussi le terme que Sarah Albrand utilise pour vous parler de son métier. Sarah est spécialisée dans la restauration de peintures anciennes. Et si j'ai bien fait mon travail, dit-elle, alors personne ne doit voir que je suis passée. Dans le journal La Montagne, l'émotion discrète de cette femme de 30 ans, dont le prochain chantier s'appelle Notre-Dame de Paris. Et respect, Sarah va se pencher sur des œuvres abîmées par l'incendie. Elle joue du pinceau comme on suspend le temps, agir sur la matière, la magie qui opère, le geste et la patience infinie.
D'autres artistes et d'autres livres dans les journaux ce matin, Jean-Philippe.
Des livres qui se plient, se cornent, se patinent au fond d'un sac, au fond de la poche. Des livres de poche, justement. C'est le journal Ouest France qui vous raconte l'incroyable aventure d'un format populaire, accessible, moins intimidant, alors que les éditions Folio fêtent leurs 50 ans et même 60 pour Pocket et 10-18. L'idée est née dans l'esprit de monsieur Henri Philippaki en 1953. Et figurez-vous qu'à l'époque, elle indignait il y a quelques snobinards de la littérature. Et le journal de ressortir cette archive hallucinante de l'INA, où l'on voit un jeune étudiant parisien qui pense beaucoup de mal du livre de poche, parce que ça fait lire des gens qui n'en avaient pas vraiment besoin, dit-il. Non, vous comprenez, il faut une aristocratie des lecteurs. Vous trouvez ça débile ? Nous sommes d'accord. Rien qu'en 2020, il s'est vendu près de 108 millions de poches, près de 15% du chiffre total de l'édition. Le champion est un certain Albert Camus, 9 millions d'exemplaires de La Peste. La Peste que l'on trouvera sans doute dans cette vaste bibliothèque. Elle recouvre les murs de sa chambre, source d'apaisement essentiel pour Yevgenia Kononenko, 63 ans, et sa fille Anna, 36, ukrainienne hébergée dans un appartement de Villeurbanne, extraite des carnets d'exil publiés par le site du journal Le Monde. Yevgenia est écrivaine. Elle est partie de Kiev avec son ordinateur. Il contient tous les romans qu'elle a écrits. Yevgenia est aussi traductrice de français. Elle a travaillé sur Simone de Beauvoir, s'il vous plaît. Mais c'est surtout de ses enfants dont elle parle. Sa fille Anna, qui est très malade, et son fils Constantin, resté là-bas, engagé dans l'armée territoriale. Pour le moment, il va bien. Mais il y a de l'anxiété, forcément. « Je n'aime pas être une réfugiée », vous dit Yevgenia. L'écriture aussi, comme un moyen de survie pour Alexei, 53 ans, habitant de Boutcha, qui témoigne dans le Télégramme. Quand les Russes ont débarqué, Alexei s'est mis à raconter, griffonner de manière compulsive tout ce qu'il voyait. Journal de bord clandestin sur des cahiers d'écoliers. C'était une façon d'évacuer le stress, dit-il, sourire gêné. Quand j'étais petit, j'écrivais mes rêves sur du papier. Alexei a aussi enterré des victimes en creusant la terre de ses propres mains.
Le roi des Belges, pour terminer.
Oui, parce que le roi est mort, Eric. L'autre roi, celui du rock, vous dit le journal Le Soir, d'Ostende à Bruxelles. Bah oui, que voulez-vous ? Arnaud a fichu le camp. L'échappé belge, écrit Gilles Renaud dans Libération. Le flamand, flamand rock, ajoute Stéphane Davet dans Le Monde. Vous en lirez de belles plumes pour vous parler de ce bel artiste. Éclaté, éclatant, insaisissable, hors de contrôle, écrit l'inconsolable Libre Belgique. Dans Libé, je retiens ce que disait de lui son ami, monsieur Michel Piccoli. Je cite, Arnaud à la générosité de la séduction, le chaos du lyrisme, la liberté du débordement. Je le tiens pour un spécimen rare, comme on le dit, d'une plante. Voilà, fermez les guillemets. Et mettez le bazar, comme il disait.
Eh bien, merci d'être venu mettre le bazar, Jean-Philippe Ballas.